podcast.com. Essaye ça.
Es-tu dégueulasse, fais ça au monde. Il y a un gars, il m'a donné plein de cartes, puis il y avait deux decks d'elfes dedans.
L'horreur.
Ah, c'est... Écoute, je veux bien, là, pas regarder la bride du cheval donné, mais ça, c'est des elfes, c'est pas comme des chevaux.
Un cadeau empoisonné.
Un cadeau empoisonné, mesdames et messieurs. Bienvenue à Terrain Basique. Vous avez reconnu la voix de Emmanuel Côté-Séguin.
C'était bien ma voix.
Ben oui, qui va nous amener en deuxième partie d'émission. Une espèce de gros rundown sur les championships de New Capena.
Yes, buddy.
On va, j'ai entendu dire qu'on était pour découvrir que Terrain Basique était une star dans la chose, hein, qu'on avait déjà toutes vu les affaires, le méta se construire, qu'on avait raison sur toute la ligne, inattaquable sur les faits.
Sure.
Sure, voilà, hein, il est motivé. Et il y a Jason Keyes qui est là aussi, le Sphinx, pour faire bonne mesure. Ça va, Jason?
Bien le bonjour. Je suis là comme second violon ce soir.
Ben oui, hein, pas de sagesse, pas de phyrexien, juste de la sagesse de Championship. Vous entendez d'ailleurs, parlant de sagesse, en background, c'est la trame sonore de Phantasy Star 4. Un jeu qui était très en avance sur son temps à l'époque. C'était quand même, je dirais probablement que Phantasy Star 1, c'était le jeu le plus, entre guillemets, en avance sur son temps. Là, au Nintendo, on avait Dragon Quest 1, Dragon Warrior 1, qui était rien de ben étoffé. Mais là, avec la série Phantasy Star, il commence à avoir du chunky. Et le 4, ça en est un qui vaut la peine d'être joué. Là, les 4 sont assez plaisants. Là, je voulais avoir à l'époque un Nintendo Genesis. Un Sega Genesis, juste pour pouvoir jouer à ces jeux-là. Et Shining Force, peut-être aussi. J'ai tout le temps bien aimé ça. Mais bon, anyway, c'est pas trop de tout ça qu'on va parler, parce qu'il y a un draft qui s'en vient en fin de semaine à l'adversaire.
Oui, c'est vrai. Effectivement, on va finalement drafter la boîte de Commander Legends dont on parle depuis une couple de mois. Là, je suis retourné, tu sais, j'ai fait l'événement, j'ai invité du monde, tout ça, puis il a fallu que je retourne dans mes archives pour voir combien j'avais payé pour la boîte pour déterminer le prix d'entrée, puis j'ai découvert que j'avais acheté ça en septembre. Fait que.
Ah, shit,
Ben, tu sais, je l'avais acheté, puis après ça, comme.
Il y a eu un micro.
La vague, puis c'est ça.
C'est des affaires.
Mais le prochain set sort, là, fait que c'est le temps de drafter ça, de s'en débarrasser, se mettre ça en bouche, puis.
C'est Commander Legend 1.
C'est Commander Legends 1. The first one.
Il y a un draft de Commander.
Je suis pas mal excité. Là, on va faire ça au pub samedi soir. Et on a un beau line-up de préparer. On va peut-être avoir deux Gatiens dans la même place. Ça va être.
Ah ouais, hein? Parce que là, il va y avoir plein de gros champions. Là. Ça, c'est rough. Ça. Il va falloir se pratiquer avant.
D'ailleurs, hors d'onde, là, on a fait un petit draft vendredi passé, Tommy. Hein, je sais que tu ne veux pas en parler parce qu'il n'y a pas gagné.
Ah, je me rappelle pas.
Mais non, c'est ça. Il a déjà rayé ça de sa mémoire. Je l'ai battu à plate couture, mais c'est pas moi qui ai gagné. Hein. C'est Joe. Joe qui a gagné.
Ben ouais, il fallait bien que vous enregistrez pas l'épisode pour que Tommy perde. Hein.
Ben, c'est ça le truc.
Fait que c'est ça, il y a juste pas de preuve. On a fait ça relax, il y avait rien à gagner. Je me suis dit, on en laisse rien aller tranquille.
Ben oui.
J'ai encore pris les maestros, là, les Grixis.
Je te dirais que sur Arena, tous les decks que j'ai fait un trophée avec, là, tu sais, que je me suis rendu à 7 victoires. Ou 6 ou 7 victoires, c'est pas mal toujours des maestros que j'avais.
Moi, ouais, mais toi, ta vie est vraiment différente de la mienne.
Ben,
le mal est fait, hein, Emmanuel.
Je t'ai dit que tu avais choisi une bonne sélection.
Ouais. En tout cas. Puis toi, Jason, c'est quoi qui se passe en fin de semaine?
Moi, je me suis inscrit au Qualifier pour le Pro Tour. Là. Il y en a plusieurs qui sont dans les Game Stores cet été. Comme vous savez, le Pro Tour, cette année, il est en format Pioneer. Fait que je me suis plongé dans ce format-là. Hier, je suis allé au FDB pour faire on a fait un petit tournoi à 10, format Pioneer. J'ai fini 4e sur 10. C'est quand même un bon départ.
Ouais.
Puis je pense pas que je vais comme... C'est comme un gun clap, là. Il faut que tu qualifies.
Tu accumules des points.
Au tournoi. Oh, ben non, mais faut que tu te qualifies au tournoi dans le magasin au mois de juillet pour pouvoir ensuite aller au régional.
Ouais.
Pour ensuite pouvoir aller au Pro Tour. Je m'attends pas à me rendre bien loin, mais tu sais, comme dit la Captain Storm dans Ixalan, c'est pas la trésor qui compte, c'est la quête.
Oui, c'est la première place que ça a été dit. Ouais.
Tu diras ça à Wizard of the Coast parce que c'est ainsi le trésor qui compte en tabarouette. Là, ils en mettent partout. Hein.
Oui, puis écoute, ça va faire de quoi à raconter au fur et à mesure de nos épisodes. Là.
Ouais.
Parce que tu sais, ce qui est cool, c'est que c'est on suit une méta. Puis là, je checkais ce que les gens jouaient hier. Là, puis ça me donne une idée. Parce que ça va être pas mal. Tout le, moi, je suis dans l'Outaouais. Fait que ça va être les gens de l'Outaouais et d'Ottawa que je vais jouer contre.
T'as-tu arrêté ton deck ou tu es encore en exploration?
Ah non, j'ai mon bon choix. Là. Ouais, je suis okay. Boros héroïque. C'est pas all mal right, fort.
All right.
Mais je vais en parler à un moment donné dans un ultime épisode.
C'est bah ouais. Hein.
Puis je me prépare aussi pour le tournoi d'Old School le 11 juin à l'adversaire. Il s'en passe du Magic à l'adversaire.
Yes, ouais. Il paraît que vous allez avoir un serveur bien sympathique.
Ouais, il paraît. Hein.
Ouais,
puis puis il y a aussi ceux qui veulent se pratiquer là, ce jeudi qui s'en vient. À l'adversaire, il y a un tournoi monthly de format old school. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui vont y aller là, pour tester leur deck pour le 11 juin. On attend des gens, là, pour le 11 juin, on attend des gens de la Nouvelle-Angleterre, Québec, Toronto. Ça va venir de partout, puis ça va être pas mal de fun. Puis sinon, ben pour Magic, c'est pas mal ça. Là, ça me fait des grosses soirées occupées, là, d'être dans plusieurs formats comme ça.
Bon, hein?
C'est
ça. Ben oui. Fait que, ben, on va te souhaiter bonne chance. Tu iras nous rendre justice, je sais pas.
Non, mais je suis bien parti à date, là. C'est, on l'espère. Je vous en reviens au mois de juillet si je réussis à me qualifier. Là.
Tu nous en reviens, on aime ça comme ça.
Bonne chance.
Ben oui, c'est sûr. Slack, il y en a. Il y en a sur quand même pas mal de séries. Là. Je n'ai pogné des vieilles de Scourge. Là, j'ai comme tout trié ces affaires. Là, je suis juste à désliver les decks pour les défaire ou pour aller patiner.
Moi, ce que j'aime quand on pogne des collections de gens, là, des random, là, c'est que tu peux voir dans quelle année à peu près ils jouaient à Magic puis quand est-ce que c'est tanné.
Ben, celle qui en a le plus que j'ai vu, je pense, c'est Dominaria puis c'est Kamigawa, là, les ninjas récents. Fait que,
Mio Dynasty.
Puis il y en avait, ça remonte jusqu'à dans le temps. Les decks... Il y a un deck de Werewolf de la dernière série sur...
Midnight Hunt?
Ouais, non, là, en fait, l'autre avant.
Ah ben, le vieux Innistrad.
Ouais, c'est ça, le vieux Innistrad. Là, je suis en train de checker ça. On va peut-être me faire un Winnie Blanc, là, parce que ça fait longtemps.
Hop là!
Checker ça, là, mais bon, il n'y a rien d'arrêté. Là, je t'ai déslivé, puis peut-être qu'on est rendu à la carte de la semaine.
On est rendu là.
On est rendu à la carte de la semaine, mesdames et messieurs. C'est une présentation de l'adversaire. C'est vrai qu'on va être samedi soir prochain, si jamais vous voulez venir nous chatouiller. Mm-hmm. 4303 Sainte-Catherine-Est. Merci à Bone aussi de nous avoir fait le beat. On écoute ça, puis on se rejase de la carte de la semaine. C'est une affaire pour rester dans la tête en esti, ça. J'espère que je viens de vous la mettre dans la tête. C'est qui a choisi cette semaine?
C'est moi qui ai choisi la carte de la semaine. Écoute, on est un peu dans la thématique du New Capenna Championship. Je vous gâcherai pas trop de punch. Je vous ai sorti une carte d'historique et la finale se faisait en standard, puis c'est surtout sur ce format-là qu'on va se concentrer. Je vous expliquerai plus en détail tantôt. Mais je vous ai sorti une carte qui a fait sa marque.
Qui a ébranlé les colonnes du temps.
Je dois dire pas bravo à Wizard sur ce coup-là. On regardera la méta tantôt, mais le deck de IZ Phoenix était assez fort les dernières fois qu'on s'en est parlé.
Ça depuis qu'on a commencé le show, il y a un deck de IZ Phoenix.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que IZ Phoenix avait vraiment besoin d'aide? Non. Et malheureusement, ils ont fait, ils ont la possibilité d'éditer des cartes. avec les Alchimie. Puis ils ont édité une carte qui s'est retrouvée à quand même pas mal aider les decks de Phoenix. Et c'est la Symmetry Sage. C'était une petite uncommon là, dans Strixhaven. Là. C'était à peine draftable là, comme carte. Personne ne s'en était rappelé vraiment. Puis Wizard se dit ah, on va la pousser un peu, voir si ça pourrait pas être le fun pour des decks de spells, tu sais. Mais ça finit par être excellent pour les decks de Phoenix. Vous allez voir pourquoi. C'est le Symmetry Sage, c'est un bleu pour une 0-3 flying. C'était précédemment une 0-2. Et avec son Magecraft, qui précédemment était à chaque fois que tu castes ou que tu copies un instant or sorcery, target creature que tu contrôles a un base power de 3 until end of turn. Avant, c'était 2. Fait que c'est passé d'une 2-2 à une 3-3. Puis ça fait que ça la met juste assez fort pour que ce soit quand même un threat assez fatigant, cheap, et qui trigger à peu près tout le temps dans les decks de Phoenix.
Ouais.
Ça prend pas la place nécessairement d'un Dragon Rage Chandler ou de quoi, mais les decks de Phoenix qui voulaient jouer comme peut-être une créature ou plus, c'est un threat récurrent. Ouais. C'est également un threat qui dépend pas du hate. À post-sideboard, souvent des decks de Phoenix qui ont de la misère quand les autres sideboards du Graveyard 8 continuent à être pertinentes là, avec les petits spells que tu casses pour
avant, le 3-3. Avant, étais-tu 0-3 puis elle devenait 2-3 ou était 0-2? Ok, ils l'ont gonflé les deux.
Absolument.
Puis, je veux dire, ça te fait sinon un bloqueur de qualité. Là, à partir de 3, ça commence à avoir de l'allure.
Tout à fait. Là, pour un bleu, tu peux difficilement...
c'est pas, on parle pas non plus de trop fort. Là. C'est parce que là, c'est...
Non,
c'est venu aider quelque chose
c'est
qui était
c'est déjà... Ça a pas comme complètement changé la méta. Ça a pas fait que les decks de Phoenix sont vraiment plus forts. Ils l'étaient déjà assez. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu... poche que Wizard profite de leur opportunité de modifier des cartes juste pour à donner à une carte qui va aller aider le deck qui est le plus dominant dans la méthode historique présente.
Probablement qu'ils se sont fait avoir et qu'ils l'ont pas vu passer aussi.
Peut-être, là. Jason, il a l'air perplexe depuis tantôt.
Ils cassent tour 1 puis ont un 3-3 flying tout le temps, là.
Pas mal loin.
C'est vraiment abus, là.
C'est abus, hein? Ils n'ont plus de raison de jouer, mettons, Delver of Secrets. Il y avait des decks qui jouaient Delver of Secrets pour à peu près ça.
Ça, c'est le Wizard qui était 1-1, puis tu reveals un instant ou un sorcery de ton library.
Mais là, c'est juste que 3-2. T'as plus la chance. Tu prends plus la chance de juste checker tes decks, puis de ton deck, puis de virer un land. Là, c'est juste t'as tout le temps des instants et des sorcery cheap dans ce deck-là.
Voilà.
Mais le championship en fin de semaine, il n'était pas en alchimie?
Non, mais en historique, ça joue les cartes alchimie.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pour ça. Alors voilà, c'était mon choix de la carte de la semaine.
On s'attendait pas à ça. Un hein? Petit pygmé, mais quand même, qui est rendu 3-3 flying. Merci, Emmanuel.
Plaisir.
Tu passes à notre merci à l'adversaire aussi. On va aller réécouter un beat à Bond pour la dernière partie d'émission. Être au courant des développements tenants, c'est gagnant du Championship de New Capenna. Ça, c'est pas les premiers qui se font en personne, là, où ça n'est.
Non, en fait, c'est le dernier qui se fait pas en personne. En annonçant en grande pompe, là, il était tout bien content de se dire OK, la prochaine fois qu'on va le faire, on va être dans le même boot, on va faire ça on-site. Puis, je sais pas encore s'ils vont.
Ça veut dire la prochaine fois, on verra pas ce qui se passe parce que ça va être une piètre caméra qui filme par-dessus les cartes.
Je sais pas s'ils vont faire ça en papier ou s'ils vont garder ça sur Arena. Selon le format, là, évidemment, là, s'ils jouent en Pioneer, ça va être papier.
Ben, ils pourront pas, s'ils font le Pro Tour en Pioneer, il n'est pas encore sur New Capenna.
Non, c'est ça. Mais je sais pas si les World Championships, mettons, vont être en Pioneer. Là.
Mm-hmm.
C'est parce que les derniers World qu'ils avaient fait en personne à Hawaï, ils jouaient sur Arena.
T'as raison, c'est vrai.
Fait qu'on verra.
Mais là, en plus, s'il y a du alchimie, mais tu peux pas ben faire ça sur papier.
Ben, c'est que ça dépend de, ça dépendra des formats, j'imagine. Oh, voilà. Mais oui, effectivement, là, c'est le retour des tournois en personne. Oh. Donc, c'était le New Capenna Championship en fin de semaine, tout le week-end. Le format de cette fois-ci, c'était historique et standard. Donc, 8 matchs historiques, 8 matchs standard, puis le top 8 qui se jouait en standard cette fois-ci. On va passer rapido sur la méta historique parce qu'elle n'a pas beaucoup changé. C'était pas ça qui se jouait en standard. Puis, on va voir là, le dernier tournoi, New End Dynasty Championship, se terminait aussi. Là, il était aussi en historique. Là, c'était historique et alchimie cette fois-là. Fait qu'on peut voir déjà là, comment la méta a changé. C'était beaucoup, là, c'était comme 25% Izzet Phoenix. T'avais un genre 10% Azorius Control, t'avais du Golgari Food, Azorius Aura, Jeskai Control, ces affaires-là. Là, Izzet Phoenix a pris encore plus la part du gâteau, là, monté de comme 25 à un peu plus de 30% là, du field qui jouait Izzet Phoenix. Pas juste à cause du Symmetry Sage, là, mais il y a eu quand même pas mal de jus qui lui a été amené dernièrement. Là, puis il y avait quand même beaucoup de monde qui jouait Izzet Phoenix. Et c'était un deck effectivement très fort dans la méta.
Je suis très content, moi, de voir encore le Dreadhorde Arcaniste dans les Rakdos.
Oui, il y a le Rakdos Arcaniste qui est un deck quand même le fun à jouer, là, qui peut être assez explosif. Puis Golgari Food là, qui reste assez compétitif. Également Azorius Aura. À noter que le Azorius Control a complètement droppé de la map. Là. Il était seulement joué à 3.1% là, au lieu de 9%. Là, c'est comme... Puis c'est une tendance qu'on va voir aussi là, en standard, les decks de contrôle et de aggro.
Azorius Aura, c'est avec les Halting
c'est avec
Glitter, les... là, qui est plus tu mets d'Aura, c'est ta créature.
Exactement, avec les Core Spirit Dancer, le nain aussi, là, qui quand tu joues un enchantement, un aura, ouais. Tu piges une carte, là, tu te ramasses, là, ouais, SRAM, c'est ça. Tu te ramasses à te faire comme une grosse bébite qui vole,
puis
tu piges tout plein de cartes tout le temps. Là, c'est
un de mes préférés en historique.
Fait que c'était pas mal ça pour le
la
metagame historique.
Des affaires qu'on a déjà vu pas mal.
C'est ça, là, les cartes les plus jouées, il n'y aura pas de surprise. Là, c'est Expressive Iteration, Unholy Heat, Dragon's Raid Chandler. Là, toutes des cartes de Arclight Phoenix, là, Consider, puis Up. Là,
des anciennes cartes de la semaine.
Ouais, exactement. Et par la Ledger Shredder. Le Ledger Shredder, qu'on a parlé il y a deux semaines.
Oui.
Qui aussi là, aide beaucoup ces decks-là. Et le Unlicensed Earth, qui est une carte dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui était, dans le fond, j'ai comme souligné les petites additions du dernier set là, qui ont fait leur marque dans Historic. Le Unlicensed Earth, c'est un véhicule qui est sorti dans New Capenna, 2 colorless pour XX, où X est le nombre de cartes exilées par Unlicensed Earth. Tu peux le taper pour exiler 2 cartes d'un target graveyard, et c'est crew 2. C'est surtout pour le graveyard 8, là, vu qu'il y avait tellement de Phoenix là, dans un Mirror March. Un Mirror Match, c'est bon. Puis ça te fait un threat aussi là, qui grossit de plus en plus là, en plus de bouffer les Phoenix adverses dans son graveyard, puis bloquer son Delirium puis des choses comme ça. Je vous avais sorti le Symmetry Sage et voilà. Sinon, ben, on peut se tourner sur le standard. C'est un peu plus intéressant à regarder parce que la dernière fois qu'on s'en est parlé, ça fait un peu plus longtemps. C'était au Innistrad Championship. Où est-ce que là il y avait le deck de Izzet et Fanny qui ramassait tout. Et puis Fanny qui a été un peu banni. Et puis il y avait du mono white aggro, mono green aggro, Hearts of Control, Izzet Control. Là, tu sais, il y avait beaucoup de soit de l'aggro ou du contrôle. Et on va voir que ça s'est transféré beaucoup du côté du mid-range. Il n'y a plus vraiment de deck pur aggro, il n'y a plus vraiment de deck pur contrôle. Ça va être beaucoup des stratégies qui vont mélanger tout ça. Je te dirais que ça aide beaucoup, ça vient beaucoup de la mana base qui devient de plus en plus facile.
Non, on parle de trésors. Triomes, parle de trésors.
À cause des trésors, les nouveaux triomes. Triomes tout ça, là, ça fait que plutôt que d'avoir un deck mono, mono couleur aggro, ça, tu peux plus facilement aller splasher pour aller chercher des cartes qui ont peut-être des plus gros effets, qui vont peut-être coûter un peu plus cher, mais qui ont plus d'impact direct là, sur, le, ouais. sur la game. Fait qu'on peut voir là, jouer beaucoup, quasiment 35% du field. Là, c'était le Esper Midrange. On va voir un peu les cartes tantôt. Là. Sinon, il y avait Naya Runes, qui est un deck qu'on n'a pas eu le temps de voir, je pense, là, de mémoire sur le show, mais qui est quand même drôle. Là, c'est un peu la, l'équivalent.
Je me souviens que tu avais parlé des runes qui permettaient de piger une carte à chaque fois. Fait que le monde y avait mis ça pour faire des enchantements.
Ouais, c'était au championship de Kamigawa, je pense.
Ouais. C'était un peu comme la. La
là, il y a du pognier, là. C'est parce que jouer 13% des decks était ça.
Ouais. Sauf qu'il n'y en a pas un qui s'est qualifié pour le top 8.
Les One Trick Pony. On en
parlera pas beaucoup. Effectivement. Puis vous allez voir, là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, un deck qui était assez intéressant, le Jeskai Storm. On va regarder les decklists un peu plus en détail tantôt, là, mais qui était aussi joué que le Naya Runes. Mais sinon, c'est du Jund Midrange. Grixis Vampire, c'est également du Midrange. T'avais beaucoup de variantes, là, autour de ça, selon les couleurs que tu jouais. Les additions notables, là, qui étaient les cartes les plus jouées des deux derniers sets, là, Fable of the Mirror Breaker, c'était partout. Là, dès que tu joues du rouge, tu joues Fable of the Mirror Breaker. C'est la saga de Kikijiki là, qui fait un 2-2 gobelin en partant. Ça coûte 3. Là, puis le gobelin, quand il attaque, tu crées un treasure token. Fait que ça te ramp, ça te fixe. Ça fait un petit peu tout ce que tu veux. Le deuxième chapitre, tu discartes jusqu'à 2 cartes et tu piges autant de cartes que tu as discartées. Et de l'autre côté, quand tu le vires de bord, t'as le Kikijiki 2-2, tu payes un colorless, tu le tapes et tu fais un token qui est une copie d'une, d'un autre target non-legendary creature que tu contrôles, elle a haste et tu la sacrifies à la ton end step. Fait que ça, c'est super fort, là, ça fait vraiment tout ce que tu veux pour 3 mana, là, t'en as pour ton argent. Sinon, justement, The Wandering Emperor qui nous venait de Neon Dynasty, c'est le Planeswalker à abattre là, présentement, là, c'est très fort. Là, mais ça a l'air que mettre Flash sur un Planeswalker, c'est bon. Parce que ça fait toutes sortes de choses. Ça fait un combat trick, ça fait du removal, ça fait du... tu peux garder ton mana up pendant un tour. Puis si jamais t'en as plus besoin, ben let's go, tu vas caster à la fin du tour de l'autre. Tu l'actives 2 fois avant que son tour revienne.
Hey, c'est débile, là. Oui, là, tu le rentres en instant, flash. Là, tu fais moins 2, exile target, tap creature, you gain 2 life, man. Mm-hmm. Oh, oui, oui.
Après ça, tu commences à le monter. Le Jukai Naturalist, là, je vous l'avais ressorti justement pour le deck de runes, là, c'est que ça faisait que les runes, en plus avec le nain de Kaldheim, ça fait que tes runes te coûtent rien.
Ouais.
Parce que le nain de Kaldheim te fait que tu peux caster les runes pour un colorless.
Mm-hmm.
Puis lui, ça fait que les enchantements spells que tu casses coûtent un colorless de moins à caster. Ben là, tu peux juste toujours caster
tes
runes. Puis les runes, on se rappelle qu'elles se remplacent. Là, tu piges une carte quand tu joues une rune. Là, fait que tu
C'est comme du vandalisme, ça. Tu peux mettre des graffitis partout, même, avec le
sinon, sinon, là, de New Capenna, et c'est là, hein, on continue sur les cartes qu'on a déjà faites en carte de la semaine. Le Tenacious Underdog, c'était pas mal la carte la plus jouée, là, dès que tu joues du noir. C'est une menace récurrente que tu ramènes de ton graveyard. Pire des cas, tu fais juste repiger une nouvelle carte parce que
tellement
tu
bon.
La sacrifies, là, tu le joues pour son blitz. Là.
Ouais.
C'est excellent. Là, ça coûte 2, tu as déjà une 3-2 sur le battlefield. Après ça, tu la ramènes de ton graveyard. Là. C'était très fort. Puis Raffine Scheming Steer qui a un petit peu justement là, balancé toutes les decks Esper qui auraient été plus contrôle. Ça les ramenait un peu plus vers le midrange parce que ça les encourageait à jouer des créatures, des petits 2 drops, 3 drops pour jouer cette carte-là qui est une 1-4 là, flying avec Ward 1 comme si elle avait besoin de protection. Qu'à chaque fois que tu attaques Target Attacking Creature connives X ou X est le nombre de Attacking Creature. Ça tu fait que là tu vois beaucoup de cartes dans ton tour. Si tu attaques, tu boostes les créatures.
Tu crois aussi ton graveyard un petit peu pas mal comme tu veux aussi. Mm-hmm. Tu as le contrôle sur celle que tu jettes.
Absolument. Là, je vous ai déjà parlé, là, mais les triomphes, les nouveaux triomphes, oui, ont quand même pas mal affecté la méta là, en diversifiant le mana base. Et la même chose un peu avec Big Score. On va voir en regardant les decklists. Il y avait déjà dans le rouge et FR, je
le masse de manière.
Il y avait Unexpected Windfall qui faisait le même effet. Mais là, ça le rendait. C'est le même effet. Exactement le même effet, mais pour 3 colorless, un rouge au lieu de 2 colorless, 2 rouges. Ce qui peut être quand même pertinent. Là, ça le rend encore plus facile à caster. Pour ceux qui se rappellent pas, là, c'est que tu discartes une carte pour caster le spell, ça coûte 3 colorless, un rouge. Tu piges 2 cartes et tu crées 2 treasure tokens. Ça en soi, c'est pas.
Moi, si j'adore fort que ces cartes-là.
C'est correct.
Ouais.
Mais quand tu la mets avec certaines autres cartes, on va voir que ça.
Ouais, on va-tu copier des instants?
On le faisait dans l'ancienne méta.
OK.
Puis maintenant. On va voir les decks. Là. Jessica Inata, c'est un deck qu'on a déjà vu sur le show. Je pense le dernier qu'on a parlé qui jouait ça, c'était Jean-Emmanuel de Pra. Là, ça. Y a, qui était un peu outlier, là, c'était un peu un deck sur le bord là, de la méta. Là, ça a vraiment pris le dessus. C'est un deck qui est axé autour de caster Inata, qui est un colorless, un bleu, un rouge, un blanc. Flying Trample 4-4, déjà ça va bien. Les spells que tu castes coûtent un colorless de moins pour chaque target. Et les spells que ton opponent caste coûte un colorless de plus pour chaque target. Et l'objectif de Inata, c'est de faire un Magma Opus super cheap. Parce que techniquement, le Magma Opus, tu peux avoir jusqu'à 6 targets, 7 targets dessus. Parce que tu peux faire 4 de dégâts divisés sur 4 targets. Tu tapes 2 targets permanents. Tu crées une 4-4, ça, il n'y a pas de target dessus. Et tu piges 2 cartes. Fait que tu peux avoir jusqu'à 6 targets. Fait que tu peux le réduire techniquement à coûter 2 pour beaucoup d'effets.
Ouais, ouais.
Qui te met pas mal ahead là, quand tu réussis à faire ça. C'est un effet très fort. Là. Puis après ça, tu avais le Esper Midrange là, qu'on a déjà parlé. Là, ça jouait le Raffine, le Tenacious Underdog, le Wandering Emperor, pas mal de Planeswalker aussi, là, Sorin de Mirkless, une copie, la bonne vieille Lot et le Kaito. Mais c'était surtout le Wandering Emperor. Ça joue aussi des enchantements qui te donnent beaucoup de power. Le Meitok Massacre, si tu joues du noir, c'est un peu un auto-include là, dans ton deck. Là. C'est un board.
Ouais, ouais, c'est fort ça. Là, tu clean sweep puis tu gagnes l'énergie.
Exactement. Le Wedding Announcement aussi là, qui te fait des petites bébites. On voit que le bleu. Il était là pour Raffine, mais surtout aussi pour le sideboard là, pour les counter spells pour la deuxième, troisième game là, selon le match-up. Naya midrange, il y en a qui l'appelaient aggro, là, mais ça reste assez midrange là, parce que t'as des plus grosses bébites. C'est pas axé sur les one drop, là, t'as même pas de créature à 1. Là.
OK. c'est vrai que c'est un drôle d'aggro.
Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment. C'est mid-range.
Ouais, ouais.
c'est un petit peu la même stratégie, mais dans des couleurs différentes. Tu retrouves le Wandering Emperor. On reconnaît certaines cartes du mono blanc aggro. C'est comme il a comme évolué. Là. Le Skyclave Apparition, le Monarch Aspirant, Wedding Announcement, ces cartes-là, qui a comme un peu splashé pour avoir accès à certaines. Au Gala Greeters, qui est une belle addition de New Capenna, là, qui a un effet très fort parce que à chaque fois qu'il y a une créature qui rentre en jeu, soit tu mets +1/+1 counter dessus, soit tu crées un trésor token tapé ou tu gagnes 2 de vie. Ça, quand t'en as une ou deux ou trois, là, plus ça hey va, plus que tu fais les effets de ça.
Ben oui.
j'ai une anecdote sur Skyclave Apparition. Là.
Ah ouais. Hein?
Parce que tu sais, c'est une créature, ça rentre en jeu, ça exile une de tes créatures à toi, là, c'est plutôt qui te target. Là. Puis, tu sais, il y avait plein de créatures comme ça avant, back in the days, là, comme Fiend Hunter. Puis ouais. Le trick, c'est tout le temps, tu tues cette créature-là, puis là, tu regagnes ta bibitte.
Ouais.
Puis mon cerveau, il n'a pas encore process que Skyclave Apparition ne fait pas ça.
Mais non,
donne une illusion qui est un power toughness du casting cas, je pense.
Ouais, exactement.
Puis à chaque fois, je suis comme, spend a removal, 15 Skyclave Apparition, donne-moi ma carte.
Ah non.
Puis là, c'est comme. Là,
t'as juste une 2-2 vanille, là, ouais. Au lieu d'avoir les effets que, supérieurs de ta
bière. Quelle bonne
ta
carte. Créature, une autre carte de la semaine. Skyclave Apparition,
là. Ouais, ouais, c'est ça.
Elle était une carte de la semaine, d'ailleurs.
Et avec raison.
On est bon là. Pareil. On est bon
c'est vrai,
pareil.
C'est vrai.
Jessica Storm, je vous en avais parlé, là. Vous allez voir, ça, c'est un deck assez intéressant, là. C'est le deck qui jouait les big scores. 4 big scores, mais aussi 2 unexpected dans un windfall, là. Assez de trucs pour créer des trésors pour jouer le Goldspan Dragon qui est une carte beaucoup trop forte.
C'est vrai que c'est bon. Ça.
Qui double le mana produit par tes trésors, ce qui fait que ton big score ne te coûte rien.
Une autre carte de la semaine.
Ton big score coûte rien. Parce que
je vois où t'es allé, là. C'est bon, ok.
T'as dépensé 4 de mana, puis tu crées 4 de mana parce que tu refais 2 trésors qui valent 2 chaque. Fixer un deck qui appelait Storm un peu, là, parce que c'était axé sur caster beaucoup de spells dans le même tour. Là, on retrouve le Galvanic Iteration dont tu parlais tantôt, copier des spells, tout ça. Pour finir avec un Show of Confidence, un autre petit instant de Strixhaven qui ressort. Un colorless, un blanc pour un instant. Quand tu castes ce spell, tu le copies pour chaque autre instant ou sorcery spell que tu as casté ce tour-ci. Tu peux choisir un nouveau target pour les copies. Et tu mets un +1/+1 counter sur target creature à gang vigilance. Mais là, l'affaire, c'est que tu targetes ton Goldspan Dragon. Vu que tu targetes, tu crées un treasure token que tu peux utiliser pour remettre des spells sur le stack, retargeter ton dragon avec les copies de Show of Confidence. Ça te permettait de faire une espèce de gros dragon qui attaque pour 18 dans les airs assez rapidement.
Fait que, 5, 3 colorless, 2 rouges, flying, haste, toutes les fois qu'il attaque, qui devient le target d'un spell, tu crées un trésor. Puis tes trésors valent le double de mana. C'est le fun. C'est le fun. Un dragon avec la bonne attitude.
Ça. Ouais. Ça joue aussi Liar, Disciple of the Drowned, là, qui te permet de donner flashback à toutes les spells dans ton graveyard. Fait que là, en plus, là, tu peux continuer.
T'as tes instant et sorcery, mais je vois que c'est à peu près juste ça qu'il y a dans ce deck-là. Là, pour les
oui,
deux
ben, on a nommé les deux créatures qu'il y avait dans le deck. Là.
Peut-être que t'as des Kiki-Jiji en bas.
Des petits Kiki-Jiki, évidemment, parce que tu joues du rouge, tu mets 4 Fables of the Mirror Breaker. Tu copies tes dragons, puis let's go, all-in. Grixis Vampire, on peut passer rapidement. C'est quand même c'est un deck, un drôle de deck là, avec les Evelyn. D'ailleurs, je l'ai drafté hier, c'était bien drôle. Ça te permet d'exiler la première carte de ton library puis la première carte du library adverse. Tu peux en jouer une des deux une de ces cartes-là par tour. Mais ça fait cet effet-là à chaque fois que tu joues un vampire.
Oh shit, hein?
Fait que tu te retrouves à aller exiler les cartes des autres, tout ça. Fait que c'est vraiment comme très mid-range là, du removal, du end du discard. On revoit là, le Fable of the Mirror Breaker, Meatoak Massacre, tout
ça. Cré manuel.
Puis il y a une espèce de John mid-range qui est comme un mélange de tout ce qu'on a vu déjà. Fait que voilà pas mal là, pour les decks un peu un peu qui se sont démarqués. On peut regarder là, le top 8. On retrouve là, justement Jeskai Storm, Jeskai Hinata. On retrouve un Grixis Vampire qui s'est rendu jusque-là. Il y avait du Esper Midrange. Naya Midrange, ça a fait un... Vu que c'était tous des decks qui avaient comme une espèce de variante de stratégie semblable, ça a fait comme un top 8 quand même assez varié.
Okay.
Puis, ça je trouve que ça a vraiment laissé place au gameplay, au jeu des joueurs. Là, que c'était vraiment comme comment ils étaient bons pour piloter leur deck
okay.
Puis prendre leurs décisions. Puis ça a été gagné par Jan Merkel, un Allemand qui avait gagné son dernier, son premier et dernier Pro Tour. Hein, c'est la deuxième fois qu'il gagne un tournoi majeur. V'là 16 ans. Hein, fait que soyez patient, gang. mais non, mais c'est quand même tout un exploit de déjà juste en gagner un,
ben oui, ben oui,
faut le faire. Il a continué à persévérer, puis c'était vraiment impressionnant de le voir jouer. Là. Il était super patient, il attendait le bon moment pour jouer son Hinata. Il jouait de Jeskai Hinata, puis tout ça. Là. C'était le fun à jouer, puis il a perdu contre Simon Nielsen. Ils se sont ramassés ensemble dans la petite finale. Simon Nielsen s'est retrouvé dans la finale des perdants, qui a gagné dans le loser bracket pour revenir dans la grande finale où ils se sont réaffrontés. Puis je dois vous dire que Simon Nielsen, c'est mon coup de cœur de la fin de semaine. Là. Si vous irez voir les highlights, là, il était toujours en train d'avoir l'air d'écouter de la musique. Là, puis il était comme il dansait en jouant, là, il chantait tout. T'sais, il chantait tout seul de son bord, il était super énergique. Puis
oh, okay.
Quand l'autre il jouait un bon coup, là, il était content pour lui. Tu le voyais, il était content. Puis, il avait toujours le smile. Là, c'était vraiment le fun de le regarder jouer. Là, fait que ça a fait une belle finale. Voilà. Donc voilà pour le championship. Ça faisait aussi ça remplissait les derniers spots qui restaient, là, le top 6. En plus, avec les deux gagnants, le top 6, qui n'était pas déjà qualifié, ça remplissait les derniers spots pour le championnat du monde, pour le World Championship qui va se dérouler en octobre. Je me suis mis les dates ici, les 28 au 30 octobre. Là, fait que on se reparle dans quand même un certain temps pour le prochain gros tournoi.
Crime quand même assez tight. Hein? Je bravo. Content de voir que Jeskai a gagné, mais ça, moi, c'est pas mal un petit peu mes couleurs. Là. Bleu, blanc, rouge.
Ok, un peu de noir.
Là. Ouais, ouais.
Un manque de deck aggro, là, je suis déçu. Là.
C'est le fun de voir aussi qu'il y a immédiatement eu des résultats avec le bannissement du spell des oiseaux. Là, me semble, ça faisait 8 ans qu'on voyait juste gagner un tour, se faire deux oiseaux, puis recommencer ça, puis gagner la game parce que les rangs les plus pires.
Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les. T'sais, de plus en plus, là, les cartes font plusieurs. Vu que les cartes ont plusieurs modes à cette heure.
Ouais.
Fait que les decks deviennent vraiment comme des espèces de machines overloadées qui part dans toutes les directions. Puis je trouve que ça fait une méta qui est très. T'as peu de place pour le 2 ou une couleur. Là. C'est des gros decks. Voilà. Comme tu dis, le mid-range, semi-contrôle.
Effectivement.
C'est ça le Magic contemporain. Là, ça. On voit qu'ils essaient de compétitionner avec les
Winnie Blanc, man. Oh, c'est n'a plus, n'a même plus. Il n'y a même plus le Winnie noir, là, le monocouleur noir.
Ah, mais ça va revenir, laisse-leur le temps. Là, tu vois, là, ouais. c'est un cycle.
Faut se rappeler.
Il y a plein d'aggro l'automne passé, puis il n'y en avait pas le printemps passé. Là.
Ouais. Puis faut se rappeler que on est comme vers la fin de la rotation, là, tu sais.
Ouais.
C'est laisse-moi regarder le Kamigawa Nukapena, il va avoir deux prochains sets là.
Ben c'est en septembre là, avec le Brothers War va venir tasser le Caldane puis le Zendikar. Là.
En brossant tabarnak.
Ça va dropper à IFR, là, mais tu sais, on est rendu là, à 7-8, on est rendu à 8-7 là, dans le standard. Fait que, tu sais, probablement qu'après la rotation, puis on l'a vu l'année passée, les decks monocouleurs, les decks aggro.
Ouais, peut-être dans les buts, ça va.
Ça fait tout le temps la même chose. Puis moi, ce que j'aime de la méta actuelle, c'est que contrairement, on se rappelle les shows qu'on faisait en 2020-2021, c'était Throne of Eldraine.
Ouais.
C'est vrai, il y avait des foods.
C'était comme, tantôt, Tommy, tu dis qu'on était tanné de voir le deck d'oiseaux, mais c'est parce que tu te rappelles plus à quel point on était tanné de voir Aventure, puis tu sais.
Puis même si c'était pas Aventure, c'était des cartes de Throne of Eldraine.
Comment?
C'est vrai que, puis même si c'était pas Aventure, c'était des cartes de Throne of Eldraine.
Ben c'est ça.
C'est vrai que, tu sais, comme les cartes viennent quand même de pas mal
tout. Ils ont mis le pied sur le break, puis ça paraît, puis... Ça fait un méta qui a des cartes de plein de sets différents.
Effectivement.
C'est vrai. On aime ça de même. Puis
même
les preuves sont là.
De Strixhaven qui ressort. Là, ouais. Qu'on avait oublié. Puis... Ah, ben, finalement, il y a de quoi faire avec ça.
Ben, les runes de Kaldheim, c'est quand même correct.
Mm-hmm. Ça, c'était, j'ai trouvé ça le fun quand ça ressort, ouais. Ce deck-là, parce que c'était comme une carte qui avait un design intéressant, qui n'avait pas vraiment fait de quoi avec. Puis là, tout d'un coup, hop, là, les cartes d'enchantement Matters de Neon Kamigawa faisaient comme « Ah, il y a peut-être...
» Il y a de quoi à faire avec les runes de Kaldheim.
Voilà. Ah ben. Là, tout ça tient. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce round-down. Félicitations au gagnant, hein, chose l'allemand là, qui était
Jan
patient.
Merkel.
C'est ça, par rapport à l'autre heureux qui dansait tout le temps. Merci, Jason, d'être passé faire un tour. Merci aussi Emmanuel. Hein. Si vous voulez participer au draft de Commander, écrivez à Emmanuel.
Peut-être un spot.
OK. Bon, ben venez nous voir à l'adversaire samedi à 18h et supplier une personne qui est là ou peut-être empoisonner un drink ou quelque chose comme ça.
Il y a tout le temps quelqu'un qui choke, là.
Ouais, c'est ça. Puis empoisonner personne.
Non.
Sauf s'il veut. Je sais pas comment dire ça. Hey, merci Emmanuel pour ce round-down. On finit le show en remerciant, comme d'habitude, Martin Godette de podcast.com qui s'occupe de faire le montage. Merci à Bond aussi qui nous offre des beats. Merci à tous les amis de la communauté de Terrain Basique. Si ça vous tente de nous rejoindre et participer à la création de memes, gênez-vous pas. Là-dessus, ben, je pense que tout est dit. On est disponible sur Spotify. Manquait ça. Et mon nom est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascrou possible. C'est bien pire que d'être manaflotte.
Membre de la famille H2O Web Media.